Journal d'Haïti et des Amériques, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, il est 8h10 à Washington. La capitale fédérale américaine aux allures de forteresse, J-2 avant l'investiture du 46e président des États-Unis qui devra peut-être davantage tendre la main à la frange progressiste de sa famille politique. On va s'y arrêter. On reviendra aussi sur la question de l'éducation au temps de la pandémie, un défi pour la nouvelle administration, pendant que Donald Trump, lui, gracie encore et encore. Bienvenue à tous. Serait-ce l'accalmie avant la tempête? Malgré les craintes, les pro-Trump sont restés calmes ce week-end aux États-Unis. Mais à deux jours de l'investiture de Joe Biden, les services de sécurité restent sur les dents. Les pédigrés des quelques 25 000 membres de la garde nationale déployés à Washington sont en train d'être passés en revue pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun risque pour la cérémonie de mercredi. Une journée que le 46e président a placée sous le thème de l'Amérique unie. La tâche paraît immense d'ailleurs. Joe Biden devra s'employer aussi à rassembler au sein de sa propre famille démocrate. L'aile progressiste du parti aimerait bien en effet être davantage entendu. Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair, nos envoyés spéciaux à Philadelphie, l'ont constaté.
Quelle influence les progressistes doivent-ils avoir sur la présidence de Joe Biden et plus généralement, quel rôle doivent-ils jouer dans l'orientation politique du parti démocrate? Question posée aux jeunes électeurs de Philadelphie qui n'hésitent pas une seconde.
Les progressistes devraient agir comme si c'était leur parti, parce qu'ils sont clairement l'avenir du Parti démocrate. Plus on est jeune, plus on soutient les politiques progressistes.
Si les démocrates veulent continuer à avoir les voix des jeunes électeurs, ils vont être obligés de travailler avec les progressistes.
Fort du succès de la campagne de Bernie Sanders et après l'arrivée de plusieurs étoiles montantes comme Alexandria Ocasio-Cortez dans l'arène politique, les progressistes ont gagné en assurance. Par un matin glacial au square Jefferson de Philadelphie, nous rencontrons Nikhil Saval. En novembre dernier, il est devenu le premier socialiste à avoir été élu au poste de sénateur de l'État de Pennsylvanie sous la bannière du Parti démocrate. Nikhil Saval en est convaincu. Les priorités de l'aile progressiste reflètent désormais la volonté de la majorité des Américains.
Une majorité d'Américains soutiennent le Green New Deal, l'énergie propre pour en finir avec les énergies fossiles. La majorité des Américains soutiennent une augmentation massive des logements sociaux et la protection des locataires. Une majorité d'Américains soutiennent un système de santé pour les parents célibataires. Je crois que les objectifs pour lesquels nous nous battons sont populaires et nous voulons que nos priorités qui sont les priorités de la majorité des Américains deviennent la priorité du Parti démocrate, qui doit être un vrai parti de gauche.
Au niveau local aussi, la jeune garde d'élus progressistes rappelle constamment son poids politique actuel, notamment après sa mobilisation durant la campagne présidentielle de l'an dernier.
J'ai vu des progressistes mener un travail de terrain incroyable pour faire entrer Joe Biden à la Maison-Blanche. Cela implique que le futur président va devoir nous rendre l'appareil.
Fait remarquer Jamie Gauthier, élu au conseil municipal de Philadelphie, une ville à qui Joe Biden doit, entre autres, sa victoire décisive dans l'État de Pennsylvanie.
Nous l'avons déjà poussé vers la gauche pour plusieurs points de son programme et nous allons continuer. Donc personne ne devrait sous-estimer l'aile progressiste du Parti démocrate.
Beaucoup de jeunes Américains qui ont voté pour des élus progressistes estiment que l'heure de la passation du pouvoir au sein du Parti démocrate a sonné.
Mais attention au piège de chercher trop de compromis. Ce n'est pas possible de trouver des compromis avec les démocrates centristes qui reçoivent l'argent des lobbies pétroliers. Il est temps de prendre le taureau par les cornes.
James, 21 ans, évoque là un point sensible. Un point qui, selon le sénateur Nikhil Saval, constitue même l'un des principaux obstacles à un réel changement de l'orientation politique dans les rangs des démocrates.
Au niveau national et dans certains États, le Parti démocrate est très proche des chambres de commerce et de personnalités riches. Mais les intérêts de ces gens qui financent le parti ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la grande majorité des travailleurs américains. Une grande partie des élus démocrates au Congrès sont d'ailleurs des gens assez riches eux-mêmes qui ont tendance à fraterniser avec d'autres riches. Ils n'ont pas de repères qui leur permettraient de comprendre les préoccupations des travailleurs. Affronter les forces du capital au sein du Parti démocrate est un défi énorme, mais nous savoir soutenus par la majorité des Américains nous rend déterminés et prudemment optimistes.
Stéphanie Schuller et Bertrand Eclair, Philadelphie, RFI.
Et pendant ce temps, à la Maison-Blanche, entre deux cartons, Donald Trump use de ses dernières prérogatives. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Vous avez lu la presse américaine qui nous apprend que Donald Trump s'apprête à gracier ou à réduire les peines de plus de 100 personnes.
Oui, selon le Washington Post, cette décision pourrait être annoncée aujourd'hui ou demain. Des sources proches du président ont affirmé effectivement que Donald Trump s'était réuni hier en famille avec sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner pour apporter les dernières touches à la liste des personnes graciées. Toujours d'après le Washington Post, Donald Trump a été très préoccupé ces derniers jours. Faut-il appliquer la grâce présidentielle à sa propre famille, ses enfants ainsi qu'à lui-même? La chaîne de télévision CNN, en tout cas, rapporte que le nom de Donald Trump ne figure pas sur la liste qui comporterait ceux de plusieurs criminels financiers et aussi des rappeurs, entre autres, Michael.
Le pardon, c'est aussi un exercice très lucratif, semble-t-il, pour les alliés de Donald Trump qui ont reçu des dizaines de milliers de dollars pour permettre à certains d'avoir accès au président.
Oui, c'est-à-dire dans le New York Times, le journal parle d'un véritable marché de pardon et de grâce qui s'est développé ces dernières semaines. Selon le quotidien, un ancien conseiller de la campagne de Donald Trump a reçu par exemple 50 000 dollars pour tenter d'obtenir la grâce présidentielle pour John Kiriakou, un ex-agent de la CIA condamné pour avoir illégalement divulgué des informations secrets défense. Donald Trump, poursuit le New York Times, a toujours eu une approche peu orthodoxe de ce pouvoir présidentiel. En fait, il a utilisé des grâces pour remercier des proches ou des alliés politiques sans que ces décisions aient été contrôlées par le ministère de la Justice, comme c'est normalement l'usage.
Voilà, la question des grâces aux États-Unis, donc peut-être aujourd'hui ou demain, on suivra cela. Bien sûr, l'autre grand titre des journaux américains, Arim, c'est encore et toujours la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Oui, il y a un an et plus de 40 000 morts. Comment les États-Unis
400 000
sont responsables
morts,
oui. 400 000 morts, tout à fait, oui. Comment les États-Unis sont responsables de leur échec dans la gestion de cette crise, explique le New York Times. Le journal pointe la responsabilité de la Maison-Blanche qui a refusé de mettre en place une stratégie nationale. Au lieu d'avoir une approche commune, les gouverneurs des États fédéraux ont été obligés de prendre des décisions sous la pression des groupes de lobbying, des experts de santé et aussi d'une population confrontée à beaucoup d'informations erronées concernant le Covid-19. Le New York Times met un coup de projecteur sur le comté de Los Angeles, l'une des régions les plus touchées par la pandémie. Toutes les 7 minutes, Michael, un habitant de ce comté californien meurt du Covid-19 alors que de nouvelles variantes du virus commencent à circuler dans cette région. Les unités de soins intensifs affiche complet et le véritable taux d'infection pourrait être bien supérieur aux données officielles, écrit le New York Times. D'après le journal, un résident sur trois à Los Angeles aurait été contaminé par le Covid-19.
Cette épidémie en priorité numéro une, tout en haut de la pile pour le prochain président Joe Biden. L'épidémie aux États-Unis comme ailleurs, bien sûr, qui a poussé à la fermeture des écoles. Et ça, on n'en a pas douté, ce sera aussi un défi pour le futur ministre de l'Éducation. L'enseignement en période de pandémie, alors que de très nombreux élèves ont décroché. Si bien qu'aujourd'hui, de plus en plus d'académies ont tout bonnement décidé d'arrêter les cours en ligne. Exemple, au Texas, un État qui concentre 10% des jeunes américains. C'est un dossier signé Thomas Arms.
55% d'échecs près d'Austin et jusqu'à 77% dans un district de l'ouest du Texas. Dans plusieurs académies, les écoliers, collégiens et lycéens ont de très mauvais résultats depuis qu'ils suivent les cours en ligne. Et autour de Houston, ce n'est pas mieux. C'est une des raisons qui ont poussé le superintendant Brett Hawkins à Livingston à arrêter les cours en ligne.
Nous avons analysé le taux de réussite de nos élèves. Nous avons constaté que 70 à 80% de nos étudiants en ligne étaient en retard. Il y a aussi eu beaucoup d'abandon. Il faut dire que 78% de la population est socio-économiquement défavorisée à Livingston. Dans ces foyers désavantagés, on constate de nombreuses lacunes dans l'apprentissage. Les enfants ont besoin de discipline, de structure et de la relation en personne que nos enseignants procurent aux élèves.
Sans compter que les parents des milieux défavorisés ont souvent des emplois qui ne leur permettent pas de rester chez eux. Les enfants ont alors moins tendance à être attentifs et les adolescents sont plus tentés d'abandonner l'école pour aller travailler dans des supermarchés ou fast-food. Les autorités scolaires ont donc cherché des études avant de prendre leurs décisions et ils sont tombés sur celles réalisées après l'ouragan Katrina qui a ravagé l'est du Texas et la Louisiane en 2005.
La seule chose que nous ayons trouvée, c'est l'impact qu'a eu Katrina sur les élèves sur le plan académique. Dans de nombreux cas, il a fallu 4 ans pour rattraper le retard dans la lecture et ces élèves n'ont jamais réussi à se remettre au niveau en maths.
Selon Brett Hawkins, l'endroit le plus efficace et le plus sûr pour les élèves est bien leur établissement équipé de systèmes d'épuration de l'air.
Il y a eu des contaminations dans la collectivité, dans les foyers, lors des petits rassemblements. Nous avons considéré que nous rendions service à nos élèves en les mettant dans l'environnement le plus sûr possible, et c'est dans nos écoles.
Dans ce comté rural de Livingston, seules 3,7 personnes sont testées positives chaque jour. Mais à Houston même, on recense 2270 nouveaux cas chaque jour. Maxie Hollingsworth est institutrice dans le centre-ville. Elle enseigne depuis chez elle et une partie de ses élèves suit ses cours sur un grand écran dans leur établissement et tous les autres depuis chez eux.
J'enseigne les maths pour tous les âges de 3 à 11 ans en maternelle et primaire. C'est extrêmement difficile avec l'école maternelle. Ce sont des enfants de 3 et 4 ans qui ne sont pas prêts mentalement à être toute la journée devant un ordinateur. Sur 20 enfants en maternelle, 3 sont peut-être en réelle interaction. Les autres sont assis et ne font que me regarder.
À Houston, seuls 40% des élèves sont retournés à l'école.
Ce n'est pas la façon dont j'envisageais l'enseignement, mais je me dis chaque jour, ce n'est pas idéal, mais c'est ce que tu as. C'est comme ça actuellement, donc tu dois faire avec. À propos des données que les gens utilisent, disant que les élèves sont en échec scolaire en ligne, soyons réalistes, nous sommes en pleine pandémie. Vos attentes doivent être radicalement réduites. On enseigne, on est parent, on apprend pendant une période qui est extrêmement stressante. Donc, attendre que l'enseignement soit le même, que l'apprentissage soit le même et que les résultats scolaires soient les mêmes est absolument ridicule.
Pourtant, de plus en plus de districts scolaires au Texas ont choisi le retour obligatoire des cours en personne et on en compte déjà plus d'une demi-douzaine autour de Houston. Thomas Arms, Houston, RFI.
Voilà le défi de l'éducation à venir pour Joe Biden, tout comme celui de l'immigration. Après 4 années de politique restrictive en la matière, l'arrivée de Joe Biden, c'est peu dire, suscite des espoirs. Quelques 9000 migrants sud-américains sont ainsi partis du Honduras vendredi en espérant gagner les États-Unis le jour de l'investiture. Mais cette caravane hier a été stoppée au Guatemala par les forces de l'ordre, Emmanuel Stills.
Gaz lacrymogène et coups de bâton, l'armée guatémaltèque a chargé contre des milliers de migrants dimanche, comme pour illustrer que les pays de la région endossent encore les politiques migratoires restrictives imposées par Donald Trump. Même si le départ de celui-ci de la Maison-Blanche est imminent, tant le Guatemala que le Mexique érigent des murs de militaires et de policiers pour dissuader la caravane de passer. Au Guatemala, les autorités décrivent ces filtres comme sanitaires. En raison de la pandémie de Covid-19, nul ne peut entrer dans le pays sans présenter un test négatif. Après avoir forcé le passage à la frontière guatémaltèque au début du week-end, la caravane, harcelée par les forces de sécurité, s'affaiblit et se disperse. Environ 9000 Honduriens ont quitté leur pays la semaine dernière pour se joindre à cet exode massif, mais plus d'un millier ont déjà été renvoyés chez eux. Ceux qui ont maintenu le cap sont attendus cette semaine sur la frontière mexicaine par un double cordon formé par la garde nationale et les agents migratoires. Emmanuel Stills, Mexico, RFI.
Arim Lipold, vous êtes toujours avec nous à la presse guatémaltèque. Que dit-elle au sujet de cette caravane ?
Oui, le journal Prensa Libre, mais qu'elle parle dans son édito d'une fuite dramatique de Honduriens qui ont donc repris une nouvelle fois la route pour atteindre la frontière mexicaine. L'origine de la migration des Honduriens, hommes, femmes et enfants, n'a pas changé, écrit le journal. Une vraie vie précaire, sans perspective d'emploi stable, une situation qui ressemble à celle du Salvador et du Guatemala, une situation qui s'est encore aggravée par la pandémie et le passage dévastateur des ouragans Eta et Iota. Le journal rappelle que la migration est un droit, mais le choix de partir en caravane en pleine pandémie, eh bien, cela représente aussi un risque. Prensa Libre conclut son édito en appelant les policiers à faire un usage proportionné de la force.
Alors que déjà plusieurs dizaines de cas de Covid ont été détectés dans cette caravane, l'épidémie, on y revient, rime aussi avec le Brésil. Le pays vient de lancer sa campagne de vaccination.
Oui, le Brésil est donc devenu le 52e pays dans le monde à débuter la vaccination contre le Covid-19, écrit la Folha de São Paulo. En une du journal, la photo de Monica Galassens, infirmière noire à São Paulo, la première brésilienne à recevoir le vaccin CoronaVac. Parmi les personnes à avoir reçu une injection en priorité se trouve aussi l'amérindienne Caibe Vanusa Costa Santos, commentaire du gouverneur de São Paulo qui avait avancé le début de la campagne de vaccination d'une semaine. C'est le triomphe de la vie contre le négationniste, une phrase destinée à l'adresse du président Jair Bolsonaro, qui a, depuis le début de la pandémie, Michael, minimisé ses conséquences, qualifiant, rappelons-nous, le virus de grippette.
Arim Lipal des CoronaVac, on le rappelle aussi, c'est le vaccin chinois contre le coronavirus, ce Covid, qui fait aussi la une dans les Caraïbes. Et bonjour à vous, Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
À la une de votre journal, le secteur du tourisme qui est une nouvelle fois frappé de plein fouet aux Antilles.
Oui, il commençait tout juste à relever un peu la tête après une année 2020 apocalyptique et on sait combien le tourisme c'est important aux Antilles. Et puis, patatras, revoici comme un cauchemar qui recommence, le test PCR obligatoire plus la septaine, autrement dit largement de quoi décourager les candidats au voyage. Écoutez d'ailleurs ces premières réactions recueillies dans le monde touristique, recueillies en Guadeloupe et en Martinique, par Eric Stimfling et Christine Cupit.
Ces gens-là vont venir, ils vont rester 7 jours bloqués dans des hôtels ou dans des gîtes. Et déjà, c'est malheureux pour eux, je trouve, parce que les laisser venir en Guadeloupe, les laisser prendre un avion, réserver, faire une réservation, et puis être bloqués pendant 7 jours, c'est quand même déjà dommage pour eux. Et après, nous, effectivement, au niveau de toutes les activités nautiques qu'il y a ici, sur Sainte-Rose et sur toute la Guadeloupe, et ben, ça aura forcément un impact économique, forcément. Si les gens sont positifs, détectés positifs, qu'ils soient mis en septaine ou en quarantaine, comme ils veulent, je le comprends. Après, ceux qui sont négatifs, je vois pas pourquoi ils seraient bloqués et qu'ils seraient impactés.
Ceux qui viennent pour la semaine, donc je pense pas qu'ils pourront rester une semaine cloîtrés, ne pas pouvoir profiter de tous les atouts que nous avons. Et après, ben, j'ai déjà quand même des échos sur les annulations.
Depuis hier, bien entendu, le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, y a des gens qui veulent être rassurés par rapport au fonctionnement de l'hôtel et de la Martinique en général. Mais forcément, ça a des répercussions. Surtout qu'on ne comprend pas pourquoi, vu que le nombre de cas n'augmente pas en Martinique.
Alors, vous vous attendez à un manque à gagner de quelle ampleur ?
Pour le moment, on ne peut pas trop juger de l'ampleur. Aujourd'hui, dimanche, donc je pense qu'on en sera un peu plus demain. Donc, nous sommes dans l'attente. Avec l'annonce d'hier, c'est un coup de massue terrible pour l'ensemble de la profession et je dirais même l'ensemble de la Martinique.
Voilà pour les Antilles. Direction la Guyane maintenant avec une hausse des cas de Covid-19 à Saint-Georges de l'Oyapock, autrement dit à la frontière avec le Brésil. Les autorités craignent évidemment la possibilité de voir arriver en Guyane le fameux variant brésilien. Elles ont donc décidé de renforcer les contrôles. Frédéric Bouteille est le sous-préfet aux communes de l'intérieur.
Que nous avons en face un pays qui connaît lui aussi une situation difficile avec une montée épidémique très palpable. Les services de santé d'Oyapoké sont très durement touchés par ce rebond ou cette deuxième vague. Donc nous allons renforcer les contrôles sur ce fleuve pour en limiter au maximum les allées et venues entre les deux rives.
Voilà, Michael, c'est pas très gai tout ça, mais ça ira sûrement mieux demain. Enfin, on peut l'espérer en tout cas. Bon après-midi, à demain.
On croise les doigts. Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Et le journal d'Haïti et des Amériques, c'est aussi à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et aussi sur Twitter, @RFIAmérique. Il nous reste un peu de temps, je vous donne un aperçu du programme de la semaine à venir. Semaine très américaine dans ce journal d'Haïti et des Amériques, avec l'investiture de Joe Biden mercredi. Demain, on sera à Washington avec nos reporters sur place, la ville en état de siège qui se prépare à l'inauguration, donc mercredi, l'Inauguration Day, comme disent les Américains. Et mercredi, on sera avec le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, pour vivre cette journée si particulière. À demain.